France Musique. Lirico Spinto, Stéphane Grant.
Bonjour à toutes et à tous. Pour ce dernier Lirico de la saison avant l'été, eh bien, je vous propose que nous lâchions les amarres du côté de l'île de Chypre et, pour être tout à fait précis, dans une ville portuaire qui se situe à l'est de l'île, Famagouste. C'est là où Shakespeare situe, dit-on, l'action de son Othello dans une sorte de forteresse imprenable, d'ailleurs extrêmement austère. C'est entre les murs de ce château que se joue ce drame terrible de la jalousie dont Verdi a tiré plus tard avec son librettiste Arrigo Boito son avant-dernier opéra, absolu chef-d'œuvre et rôle que tous les grands ténors convoitent bien sûr depuis 1887. Et un nom vient de s'ajouter à la liste de quelques prestigieux titulaire, il s'agit de celui de Jonas Kaufmann. C'était un événement très attendu, il est aussi d'ailleurs très commenté. Les représentations ont lieu ces jours-ci à Londres. Alors, quelle voix faut-il pour Othello? Quelle est la voix ou quelles sont les voix des grands Othello que le disque a documenté depuis plus d'un siècle? Eh bien, une partie dans la réponse, une partie de la réponse est dans l'émission d'aujourd'hui. Bienvenue.
Quel sorriso, quel rosso
C'est d'abord une longue plainte, douloureuse plainte d'Othello au troisième acte de l'opéra de Verdi. Voici un général qui eût préféré, nous dit-il, que Dieu fasse de tous ses fiers et triomphants trophées une ruine et un mensonge plutôt que d'être accablé à ce point par la trahison de Desdémone, ou en tout cas par ce qu'il croit être une trahison, la femme qu'il aimait, celle qui l'aurait trompé. Or on sait qu'il n'en est rien et que le venin de la jalousie mènera Othello et bien sûr Desdémone à la mort. Et dans cette longue plainte, à Londres, il y a quelques jours, eh bien, Jonas Kaufmann a déployé toute la science et tout son art d'interprète avec dans les mots et dans chaque note une extraordinaire variété d'intentions et de couleurs, beaucoup plus et beaucoup mieux d'ailleurs, me semble-t-il, que dans l'extrait de ce récital Verdi que l'on vient d'écouter, où la voix est tout de même assombrie de façon très artificielle, ce qui n'est vraiment pas du tout le cas dans les représentations de ces jours-ci à Londres. Alors pour le faire bref, c'est une prise de rôle majeure et déjà tout à fait accomplie. On entendait bien avant cette première au Covent Garden certains doutes de ceux qui considéraient que cette voix du ténor allemand n'était pas a priori la voix d'Othello ou la voix pour Othello. Eh bien une chose est sûre, c'est qu'il en a toutes les notes et il en a surtout la puissance d'incarnation. Et quant à ce que serait la voix d'Othello, eh bien le mieux au fond est de retourner aux sources, puisqu'on a la chance d'avoir le témoignage de celui qui créa le rôle à Milan en 1887. Francesco Tamagno, le premier Othello de l'histoire, le créateur du rôle-titre de l'opéra de Verdi, avait 36 ans lorsqu'il lança pour la première fois cette esultate et les premiers mots, les premières notes solaires et triomphantes d'Othello et que l'on attend bien sûr tellement. Et à entendre cela, à l'instant, on comprend bien sûr ceux qui plaident en faveur d'une voix plus claire pour ce rôle d'Othello, là où peut-être la tradition ensuite a privilégié des voix plus sombres, plus dramatiques et même presque plus baritonnantes. On verra ça d'ailleurs un peu plus loin. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut aussi passer la rampe de l'orchestre. Cela n'est pas qu'affaire de clarté de timbre. Et dans le cas de Tamagno, on dit que dans la salle, eh bien, la projection de la voix était tout à fait impressionnante. Les extraits de son Othello qu'il nous laisse datent bien sûr de quelques années après la création de l'œuvre. On était ici en 1903. Tamagno avait 53 ans et il faut dire que la santé de la voix était toujours absolument insolente.
Ora per tempore addio.
l'extrait de cet Othello par celui donc qui a créé le rôle. C'est tout de même très émouvant d'écouter cela. Francesco Tamagno, enregistré en 1903. Voix, disais-je juste avant, toujours d'une santé éblouissante. Mais hélas, Tamagno souffrait depuis longtemps d'ailleurs d'une maladie cardiaque et il est mort 2 ans après cet enregistrement en 1905. Dans cette grande et prime tradition italienne, et même avec sans doute un tout autre style, Giovanni Martinelli, immense ténor de la première partie du XXe siècle, a été le grand Othello de sa génération. Et chez lui, eh bien, tout simplement, tout est admirable. L'éclat et la lumière du timbre, la façon de scander le texte. Quelqu'un a même écrit de calligraphier la phrase musicale, c'est justement et magnifiquement dit. Je propose de l'écouter ici au Met, dont il fut l'une des stars les plus adulées. C'est une soirée captée au mois de février 1940. Musique, c'est Lirico Spinto. Nous explorons aujourd'hui les voix d'Othello et à l'instant, c'était Giovanni Martinelli. À ses côtés, l'un des grands Iago de l'histoire, le baryton Lawrence Tibbett. On était au Met à New York le 24 février 1940. Un Othello de Verdi dirigé par le chef Ettore Panizza, Hector, pour être exact de son prénom de naissance, puisque ce chef était argentin et chef en tout cas dont le geste, vous l'avez entendu, est quasi toscaninien. Alors justement, eh bien, on arrive ici à la légende. Un Othello que l'on réécoute et auquel on revient inlassablement comme les saintes écritures verdiennes depuis 70 ans, désormais depuis que cet Othello a été enregistré. On y revient pour Toscanini, bien sûr. On écoutait tout à l'heure Francesco Tamagno, le créateur du rôle. Eh bien, il faut imaginer aussi que Toscanini était dans la fosse de la Scala de Milan le soir de la création d'Othello. À l'époque, c'était un jeune homme qui n'avait pas encore 20 ans. Il était au pupitre des violoncelles et c'est même lui qui avait eu la responsabilité d'introduire le grand duo d'amour. Vous savez, ce grand duo qui conclut le premier acte d'Othello entre Desdémone et donc le rôle-titre. On écoutera cela d'ailleurs un peu plus tard dans cette émission. Tout de suite, je vous propose de retrouver donc Toscanini, chef d'orchestre. On est en 1947. Il est à la barre du vaisseau, à la barre de cet enregistrement d'Othello et avec dans le rôle-titre le ténor chilien Ramón Vinay.
Viva! Viva!
Tout a été dit évidemment du geste et du génie de Toscanini. Tous les chefs se mesurent à lui aussi d'une certaine façon dans cette déflagration orchestrale qui ouvre Othello. Et à Londres ces jours-ci, la façon de faire d'Antonio Pappano s'inscrit très sûrement dans cette optique. Parmi les noms que l'on a évoqués en commentant la prise de rôle de Jonas Kaufmann, et puisqu'il faut bien toujours mesurer ou comparer les interprètes d'aujourd'hui à leurs grands aînés d'hier, eh bien on a lu, entre autres, dans les colonnes du New York Times, le nom du ténor chilien Ramón Vinay, et là, eh bien, je dois dire que la comparaison est assez pertinente, car avec lui, on est évidemment aux antipodes de la clarté des Italiens Tamagno ou Martinelli, que l'on écoutait juste avant lui. Le timbre est beaucoup plus sombre, c'est celui d'ailleurs d'un chanteur qui avait commencé sa carrière comme baryton et qui l'a terminé comme baryton en chantant même le rôle de Iago, après avoir fait Othello plus, je crois, de 250 fois. C'est un cas évidemment quasi unique dans l'histoire de l'opéra. Grand ténor verdien, donc, grand ténor aussi wagnérien. Et chez Ramón Vinay, eh bien, ce qui fascine et personnellement ce que j'adore profondément, c'est le musicien. Et là encore, c'est la puissance de l'incarnation. Je propose d'écouter de nouveau ceci. C'est la confrontation entre Othello et Iago. On est à l'acte 2 de l'opéra. C'est toujours l'enregistrement dirigé par Toscanini et Ramón Vinay fait face au baryton Giuseppe Valdingo.
Tramerò la prova del peccato d'amor nella dimora di Cassio ciò s'asconda atroce idea
il mio veleno lavora
rea contro me
sopri e ruggi
atroce, atroce non pensateci più oh, indietro fuggi mai legata alla croce ahimè ti orrendo d'ogni orrenda ingiuria dell'ingiuria e sospetto velo d'arcane della sua lussuria e a me furate citava il petto fuori un presagio eroldo giudico nulla penso mi accendevo su quel corpo di me che mi innamora e sui labbri mendaci e ardente baci di passio ed ora ora e per sempre addio sante memorie addio sugli incanti del pensiero addio schiere fulgenti addio vittorie nardi volanti e volanti corsier addio addio vessillo trionfale pio e liene squillanti insolnati clamori e canti di battaglia addio della gloria d'Otello e questo il fin e questo il fin e questo il fin
pace signor
sciagurato mi trovo una prova sicura che Desdemona è impura la sfuggir la sfuggir nulla ti giova una sicura una visibile prova oh sulla tua testa s'accende precipiti il fulmine è il mio spaventato furor che ci basta
divina grazia difendimi non so più vostra alfiere voglio che il mondo testimon mi sia che non è stato
no rimari forse onesto tu sei
meglio varrebbe che io fossi un ciurmador
per l'universo credo leale Desdemona e credo che non lo sia
credo onesto, e credo disleale, la prova io voglio, voglio la certezza.
Non frenate l'ansia, e qual certezza va bisogna, ha vinti vederli forse,
morti dannazione,
la impresa sarebbe.
E qual certezza sognate voi,
se quell'immondo fatto sempre vi sfuggirà? Ma pur seguita è la ragione al vero, una sì forte congettura riservo, che per poco alla certezza vi conduce. Udite. Era la notte, Cassio dormia, gli stavo accanto, con interrotte voci tradia l'intimo incanto, le labbra lente, lente movea l'abbandono del sogno ardente. E allor dicea con flet il suono, Desdemona soave, il nostro amor s'asconda, cautive gli amore, estasi de cielo. Più vago l'incubo blando, con molle angoscia l'interno immago, quasi baciando. E disse poscia, il rio destino impreco, che al moro ti
che
un sogno che rivela un fatto, un sogno che può dar forma di prova d'altro indizio.
E qual?
Talor vedeste in mano di Desdemona un tessuto tra punto a fior e più sottile
il fazzoletto ch'io le diedi meglio primo d'amor.
Quel fazzoletto ieri certo ne sono.
Lo vidi in man
di Cassio.
Mille vite li donassi di
cor di cielo, lungi da me le pietose larve, tutto
alzando il mio vano amore sano al cielo. Guardami e sparne nelle sospire tappe di drama vince. Sangue, sangue, sangue! Sì, pel ciel marmorio giura, per gli attorte folgori, per la morte, per l'oscuro mal sterminator, di impeto tremendo, resta via che spalvoli questa me che avevo spendo. Alzate ancor testimone il sol che ammiro e mi radia l'anima anche a terra il vasto spirito.
Voilà, on comprend, je crois, pourquoi depuis 1947, depuis la date de son enregistrement, il est impossible de se passer de cet Othello, version de l'opéra de Verdi dirigée par Arturo Toscanini à la tête du NBC Symphony Orchestra, avec Ramon Vinay dans le rôle titre et Giuseppe Valdingo dans celui de Iago. Il y a un autre Othello avec Ramon Vinay, dirigé à Salzbourg en 1951 par Wilhelm von Wangler, qui est très coté lui aussi pour d'autres raisons, bien sûr. Je l'ai réécouté pour préparer cette émission et vraiment pour Vinay, je préfère de loin son enregistrement avec le chef italien. Cet Othello qui a été réédité d'ailleurs il y a peu dans un coffret Toscanini qui commémore à la fois les 150 ans de sa naissance et puis le 60e anniversaire de sa disparition.
Stéphane Grant, Lirico Spinto, France Musique.
Quelles sont les voix d'Othello? Quels sont les grands Othello, c'est-à-dire ceux qui nous bouleversent, ceux qui dépassent le simple fait de chanter pour se glisser dans les méandres les plus subtils de la psychologie de ce personnage? Un guerrier, un amoureux fou et jaloux bientôt. 13 ans après la grande version d'Arturo Toscanini, eh bien Tullio Serafine à son tour gravé une intégrale de l'opéra de Verdi avec Léonie Rizanek et John Vickers. Grand duo d'amour, grand duo qui conclut le premier acte d'Othello, l'opéra de Verdi. C'était John Vickers et Léonie Rizanek. La seconde, vous l'avez entendu dans une voix splendide. Et le premier, Vickers, qui a su, comme nul autre, peut-être dompter et discipliner cette grande voix puissante pour la teinter et pour la nuancer par des intentions des plus subtiles et des plus poignantes. L'un des grands Othello du XXe siècle, dirigé ici par Tullio Serafin, à la tête de l'orchestre de l'opéra de Rome. L'enregistrement date de 1960 et c'est aussi bien sûr une façon d'avoir une pensée pour le ténor canadien qui nous a quittés il y a 2 ans, c'était le 10 juillet 2015. Un rôle comme Othello se chante une première fois et puis son interprète au fil du temps apprend à le faire sien, et quand bien même une toute première fois peut-être déjà très accomplie. Dans le cas de Placido Domingo, une soirée à l'Opéra de Vienne, captée en 1987, le montre et le fait entendre totalement habité par son personnage jusqu'à l'air final et jusqu'à ses derniers mots. Un altro bacio, un dernier baiser qu'il ne faut plus chanter mais qu'il faut dire et susurrer dans un dernier souffle avant la mort. Écoutez.
Thank you.
C'était à l'Opéra de Vienne le 10 mai 1987, la mort d'Othello avec Placido Domingo et Zubin Mehta à la baguette, une soirée qui a été publiée sous le label Orfeo, alors de Tamagno à Domingo en passant par Martinelli, Vinay, Vickers et jusqu'à un nouveau titulaire du rôle, aujourd'hui Jonas Kaufmann, et bien le héros de Shakespeare dont Boito et Verdi ont si génialement adapté l'histoire pour l'opéra a de beaux jours devant lui. Othello est à l'affiche du Covent Garden à Londres jusqu'au 15 juillet avec Jonas Kaufmann et Grégory Koundé en alternance dans le rôle titre. L'été sera forcément lyrique sur France Musique. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous présenter tous les samedis matins entre 11h et midi, tous les samedis de juillet et août, une série qui s'appelle L'été de la Callas, série donc consacrée évidemment à Maria Callas. Nous serons également à Orange, nous serons à Salzbourg, à Bayreuth et nous serons aussi à partir de jeudi prochain en direct du Festival d'Aix-en-Provence. Vous y serez tous les soirs en compagnie de ma camarade Judith Chen. Elle vous y présentera les grandes soirées de cette édition 2017 du Festival d'Aix. Il y a au programme de cette édition notamment deux spectacles très attendus, The Reich's Progress de Stravinsky et une nouvelle Carmen de Bizet, mise en scène par Dimitri Tcherniakov. Et aujourd'hui, pour conclure cette saison de Lirico Spinto sur France Musique, j'ai un très beau cadeau à vous faire. J'ai deux fois deux places à vous offrir, deux places à gagner pour le Reich's Progress le 5 juillet et deux places pour Carmen le 17 juillet. Une toute petite question à laquelle vous pouvez répondre via l'onglet Contactez-nous sur la page de Lirico Spinto, qui est, pour cette édition d'Aix 2017, la titulaire du rôle-titre de Carmen de Georges Bizet. Vous me répondez, le premier à répondre auront donc gagné pour le 5 juillet deux places pour le Reich's Progress et pour Carmen le 17 juillet deux places également, deux très belles places qui plus est. À vous de jouer. Un grand merci à Marie Grou qui a réalisé cette émission aujourd'hui avec Julien Calvas et Dofar Guéride. Réécoutez et podcast de cette émission sur francemusique.fr et à 20h votre opéra. Une redécouverte magnifique, c'est Le Timbre d'argent de Camille Saint-Saëns, production de l'opéra comique dirigée par François-Xavier Roth. Belle journée, bon dimanche, très bel été. Je vous retrouve samedi prochain à 11h.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.